mutinerie, c'est une révolte. Une rébellion contre l'autorité. Un mutin, c'est une personne en révolte contre l'autorité établie.
Allez, debout là-dedans.
C'est quoi ça?
Debout là-dedans, bordel. Allez, debout là-dedans.
C'est quoi ce bordel?
Allez, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, tactique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Allez, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, tactique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealers. Qu'on veut pas de militaires, que des militants.
Les plus sceptiques, maraboutelés. Les plus réfractaires, contaminés. Fais le forcing, sort la tiraille, sort les munitions, l'artillerie braquée. Hey, campe sur des positions, bouge-les comme un LK. Bouge les défenses, réveille-les comme Zizou réveille le stade de France. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met la fière. Ce soir, on vous met dans la tête une idée révolutionnaire. Mission Haïti à coup de ghetto blaster. Message de paix de Buenos Aires à Ramallah. Tous solidaires de Dakar à Jakarta. Faire péter les watts comme un acte humanitaire. Pour nos voisins, nos cousins, nos petits frères. Pour les nôtres, pour nos quartiers populaires. Réveillez-les, les dealers, c'est salutaire. Debout.
Salut, c'est encore les Mutins Mutines qui reviennent sur l'antenne de Fréquence Mutine. Et aujourd'hui, on va se refaire une émission un peu musicale et puis un peu encore, comme il y a deux semaines, un peu souvenir de l'été. Voilà.
C'est beau. Alors là, c'est une spéciale dédicace aux Brestois qui sont restés sous la pluie au mois de juillet.
It's raining so hard.
Voilà, on est sur Mutin Mutine, on va parler un peu de nos souvenirs de vacances. Alors, on voulait commencer par des Brestoises qui sont du côté de Valence, donc qui ont ouvert en fait au mois de juin, enfin à la fin du mois de juin, une maison, un squat non mixte à Alixan, c'est entre Tain et Valence. Et donc, là, elles étaient 5 dans cette maison à côté d'Alixan. Il y a une autre maison qui s'est ouverte et une troisième depuis toutes les péripéties qui sont arrivées. Et donc, moi, je suis passée là-bas à la fin du mois d'août. Et donc, on peut peut-être, avec Yura Monzé, raconter un peu l'histoire de ce squat. Où, en fait, c'est un projet qui se passe, c'est sur la vallée du Rhône. Donc la vallée du Rhône, elle commence à être bien connue par rapport au nucléaire, la recherche nucléaire, tout le PR qu'il y a à Cadarache. En fait, ça remonte progressivement depuis la Méditerranée jusqu'à Grenoble, tranquillement. Et donc là, en fait, le projet, ça s'appelle, c'est un projet qui s'appelle, qui a, comment dire, qui est racheté par quelqu'un qui s'appelle Rovaltan. C'est un syndicat mixte en fait de communes où il y a, je crois, 53 communes qui sont concernées. Et donc là, le lieu où elles sont, c'est des super maisons qui ont été construites dans les années 90, des énormes villas presque. Donc où il y en a pas mal qui ont été rachetées par ce syndicat Rovaltan, ça veut dire Roman Valence Tain. Et donc ils continuent en fait à exproprier petit à petit. Là, il y a encore quelques maisons qui restaient où les habitants sont encore là parce que Rovaltan a pas assez d'argent pour racheter au prix que valent ces baraques là. Donc en fait, je crois qu'ils restent dans le périmètre où ils sont. Il doit y rester 3 familles, quelque chose comme ça, et toutes les maisons donc sont en état de marche parfait, mais elles sont vides. Et donc là, elles ont ouvert, elles, en fait, elles voulaient faire un squat non mixte au début du mois de juin. Et en fin de compte, début juillet, il y a un autre squat qui a ouvert. Et là, depuis, en fait, qu'il y a eu des problèmes, depuis que le garde champêtre d'Alixan est passé, qui s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui s'installait dans tous les sens. Donc la police est passée, a pris des noms et ils sont passés au tribunal le 1er août. Et en fait, c'est un coin où en fait ce qu'elle racontait un petit peu, c'est qu'ils sont pas trop trop habitués à la culture du squat, donc ils ont été un peu débordés. Et il y avait pas mal de gens aussi qui venaient de Grenoble, de Caen, où il y avait des maisons qui avaient été expulsées. Mais ça, toi, t'es un peu plus au courant, Yoram?
À propos de Caen, oui. Enfin, peut-être que je pourrais y revenir après. Vas-y, finis ton histoire.
Finis de raconter l'histoire. Donc, en fin de compte, au début du mois d'août, ils sont passés au tribunal d'instance de Romans qui leur a accordé un délai. Et donc, parce qu'ils avaient un avocat qui a pas mal défendu les squats de Grenoble, je crois. Et donc, ils commencent à s'y connaître pas mal. Et donc, je sais plus exactement sur... En fait, l'histoire, c'est que Rovaltan, quand ils ont décidé de démolir les maisons, d'expulser super rapidement les gens, en fait, c'est que les démolitions de maisons avaient commencé. Donc, en fait, le fait que les gens arrivent et s'installent dans les baraques, ça a retardé tout le chantier. Et fin août, il y avait les premières maisons qui commençaient à être détruites. Enfin, fin juillet. Et donc voilà, donc ça speedait, ça les énervait beaucoup, et puis il y a pas mal de millions d'euros en jeu. Et d'ailleurs, je sais pas comment on appelle ça, le truc de jugement qu'elles ont reçu, la convocation demandait, je crois que c'était un truc comme 350 euros par jour depuis que le squat avait été découvert. Donc ce qui est assez énorme. Hein ?
La réquisition.
Ouais.
C'était requis, c'est ça, contre.
Et donc des sommes assez énormes parce que le retard de chantier et tout ça. Et donc là, ils ont monté quand même pas mal d'actions de rassemblement de gens. Ils ont fait des appels sur Internet à mort. Et en fin de compte, il y a quand même une troisième maison qui s'est ouverte. Et donc ils sont repassés le 6 septembre au tribunal, et où c'est assez mitigé, mais ils n'ont pas été encore expulsés. Il y en a juste certains, ceux qui sont... nominativement cités dans le jugement, qui vont devoir payer, donc il y aura sûrement un appel à soutien aussi. Et autrement, le délibéré, c'est le 20 septembre. Et donc là, dans le jugement, il parle que l'avocat a essayé de faire justement jouer la jurisprudence de Caen. Et là, Yoram sait ce que ça veut dire.
Et en fait, la jurisprudence de Caen, c'est une référence au squat de la mauvaise herbe à Caen. Où, en fait, ça a été une première où le jugement en fait avait condamné les personnes qui étaient nommées, convoquées au procès. Donc, je crois que c'était seulement 4 personnes à ne plus mettre les pieds dans la maison, en fait. Donc finalement, ça a donné une situation un peu absurde qui a joué en leur faveur pendant à peu près un an et demi, je sais plus. Et où en fait. La décision du tribunal était pas vraiment applicable, quoi, parce que c'était seulement ces 4 personnes-là qui étaient expulsables, mais pas la maison elle-même, en fait. Enfin, le jugement était sur les personnes et pas sur la maison. Donc
ça, veut dire qu'en fait, les autres personnes, il faudrait qu'il y ait une procédure qui se mette en place de la même façon pour qu'elles soient elles aussi expulsables.
Voilà, bah, si on suit cette logique-là, oui. Sauf que du coup, bah, c'est inapplicable. Enfin, c'est inapplicable, quoi. Donc, 4 personnes expulsables, mais il faudrait que la police fasse des contrôles d'identité à l'entrée de la maison pour savoir qui rentre. Du coup, ça s'est pas fait. En fait, ils ont pu. Ça leur a donné du temps pour. Voilà quoi, pour utiliser la maison assez librement. Par contre, jusqu'au jour où les bulldozers sont arrivés pour raser la maison, la fameuse maison du squat de la mauvaise herbe à Caen. Et ça, par contre, du coup, aussi en toute illégalité. Enfin, il n'y avait pas eu de jugement qui ordonnait la destruction de la maison. Enfin, je sais pas, je pense que c'était un peu une initiative du propriétaire aussi. Complètement hors du cadre de la loi d'ailleurs, mais enfin bon, voilà quoi. Il sera jamais condamné. Hein,
ben non, c'est sûr, la propriété privée.
Ouais, voilà, il a défendu son bien, quoi. Mmh. Et voilà. Donc voilà, c'est cette histoire de jurisprudence de Caen qui apparemment. C'est ce qui a été plaidé par l'avocat. Donc on va voir, ça va être assez intéressant de voir si c'est repris ou pas. Enfin voilà. Mais si c'est repris, c'est plutôt.
Bon signe
une
pour
bonne
eux.
Nouvelle, voilà, ouais. Ça veut dire que ce sera une décision. Où les gens qui ont été nommés au procès seront expulsables, mais voilà quoi. Dans le concret, ça sera inapplicable. Et puis sinon, sur le squat d'Alixan, l'autre chose qui permet d'être optimiste, c'est aussi le fait qu'il y avait, il y avait plus ou moins un projet de démolition, enfin qu'ils ont ressorti à partir du moment où les maisons étaient squattées.
Il y avait des maisons qui ont été. Moi, quand je suis parti, il y avait des maisons qui commençaient à être. Il y avait deux maisons qui étaient en train d'être démolies.
Bah oui, voilà, ouais, ils se sont remis vite à avoir envie de démolir à partir du moment où il y a des gens qui avaient l'idée d'habiter dedans. Mais en fait, il y avait un. Sauf qu'on démolit pas comme ça non plus. Enfin, quand on est un. Comment t'as dit, un syndicat mixte.
Ouais.
Enfin, c'est pas un propriétaire privé. Du coup, faut passer par des appels d'offres, voilà, des marchés qui sont passés avec des entreprises, etc. Et là, l'appel d'offres arrive à terme le 21 septembre, je crois. Enfin, le premier appel d'offres là qu'ils avaient lancé pour la démolition. Et sauf que l'appel d'offres, il est suspendu en attendant le rendu du procès. Enfin, le verdict là du procès. Et voilà. Et donc,
ça risque de bloquer fortement les choses.
Voilà, le processus de démolition de ces maisons-là risque d'être un peu bloqué. Du coup, petit à petit, on va arriver à l'hiver, et donc on peut imaginer qu'ils auront la possibilité de passer l'hiver au chaud.
Ce serait bien, parce que c'est quand même des sacrées maisons, et c'est quand même fou de se dire que ces baraques-là, elles sont démolies pour de la recherche nucléaire, parce que je crois que c'est ça, il y a un truc, c'est l'IRD, le truc de recherche-développement, et un autre sur l'écotoxicité, les produits toxiques, pour nous montrer un petit peu comment ça peut être pas si dangereux que ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est à côté de Poitiers aussi qu'il y a un centre comme ça, où ils ont ouvert à la sortie, comme il y a des eaux chaudes qui sortent de ce centre et de tout ça, et ils ont ouvert un parc à crocodiles pour les enfants.
Ah, oh, super.
C'est sympa, hein.
C'est bien, puis on peut aller se baigner dans des eaux tropicales.
Tropicales et tout ça, ça nous changera de notre climat tempéré.
Ouais. Bon, voilà. Et bah, du coup,
les gens qui veulent aller voir, le 20 septembre, en tout cas, il y a toute une action qui est montée à Romans, et où il y a un film qui est diffusé avec une mise en place des exercices quand il y a des accidents nucléaires.
Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Ceci est une simulation.
Voilà, c'est ça.
Super comme film. Et voilà. Et puis on peut retrouver en général toutes les infos qui concernent les squats de partout en France et même au-delà, partout en Europe, sur un site, une espèce de portail multilingue qui s'appelle squat.net. Voilà, c'est facile à retenir, squat.net.
Et sur en général. Sur ce squat-là, il y a anatorka.com aussi, qui est en direct des gens de là-bas. A-N-A-T-O-R-K-A.
Voilà, et puis comme d'hab, on mettra tous ces liens-là sur notre site à nous, qui s'appelle mutinmutine.c.là. Voilà, mais je sais pas si on a encore besoin de vous le dire. Et puis voilà.
Une petite chanson
après toutes ces nouvelles, et puis on se retrouve dans quelques minutes.
I was doing time in the universal mind. I was feeling fine.
I was turning keys, I was setting people free. I was doing all right. Then you came along with a suitcase and a song. Turned my head around. Now I'm so alone, just looking for a home in every place I see. I'm the freedom man. I'm the freedom man. I'm the freedom man. That's how. I
dans Mutant Mutine et puis on raconte toujours nos souvenirs de vacances. Alors là, on était au Portugal, parce que Yoram est parti au Portugal cet été. Alors c'était vers Évora, c'est ça?
Non, pas du tout.
Arrête.
C'était à São Pedro do Sul.
Comment?
En fait, c'est dans le centre du Portugal. En fait, c'est j'étais. Enfin, on va parler d'un festival qui s'appelle Andansach, qui est un gros festival de danse trad de tous les pays. Voilà. Mais c'est organisé par une asso qui est située à Évora, en fait. Et qui avant faisait le festival à Évora les premières années, mais c'est très 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 chaud à Évora, il fait très chaud l'été. Et du coup, vu que voilà, ils font des ateliers de danse toute la journée et tout, l'après-midi c'était chaud. Et ils l'ont déplacé là à San Pedro do Sul, qui est une région très très montagneuse. Enfin, c'est la région la plus montagneuse et la plus fraîche du Portugal du coup. Mais oui, il faisait quand même 45 degrés l'après-midi, début août, quoi. Du coup, on se demandait un peu comment c'était dans les autres régions, parce que si c'était ça la région la plus fraîche. Bref, ouais, c'est pas forcément là où je voulais en venir, mais voilà. Enfin, donc c'est un gros festival où il y a plein de groupes qui viennent un peu de tous les pays. Bon, bien sûr, beaucoup de Portugais et aussi beaucoup de Capverdiens, d'Angolais et de Brésiliens. Enfin voilà. Donc les pays colonie portugaise, et puis pas mal de Français aussi, et puis pas mal de groupes d'Europe de l'Est. Voilà. Et bah moi, ce qui m'a un peu impressionné dans ce festival, c'est comment, enfin voilà, je suis pas allé forcément que en tant que touriste, on était aussi bénévole et on a géré les toilettes sèches et donc
vous en avez carrément fabriqué là-bas, en fait.
On les a même fabriqués, enfin voilà, bon, on va pas s'étaler non plus sur ce qu'on a fait tout ça, mais on les a fabriqués, on a sensibilisé les gens, et puis voilà, on a permis à plein de gens que leur caca se transforme en compost. Voilà, et donc en fait, moi ce que j'ai trouvé pas mal, mis à part tout le côté, enfin voilà, je ferai pas un topo sur le côté subversif de la danse trad, il y a peut-être des gens ici dans la région qui sauraient le faire, donc à la limite qu'ils n'hésitent pas à nous appeler. Mais sur le fait que on danse ensemble sans se connaître, ça brise des tabous, etc. Enfin voilà, moi, c'est un discours que je saurais pas soutenir. Par contre, ce qui était pas mal trippant dans ce festival, c'est comment c'était géré. Enfin voilà quoi, par 700 bénévoles. Et c'est un festival qui brasse 20 000 personnes. Où en fait, c'est assez, bon, ils ont en fait des moyens. Enfin du coup, ils fonctionnent sans comment dire, sans subvention ni sponsoring privé, et en fait du coup tout est financé par les entrées qui sont un peu chères, mais du coup ils ont aussi des moyens parce qu'en fait le siège un peu de le QG là, de l'orga du festival, il se trouve dans un lycée technique agricole, et du coup donc ils ont tous les moyens, donc tout l'espace du lycée qui est en vacances et tout, donc c'est assez énorme quoi, tous les bureaux, voilà, les connexions internet, enfin voilà tout. Et ils ont aussi, vu que c'est un lycée agricole, tout plein de terres autour avec des serres, tout ça, qui sont gérées pendant toute l'année par le lycée, et qui du coup servent à alimenter la cuisine du festival. Donc le festival a une cantine qui nourrit peut-être pas 20 000 personnes, parce que tout le monde mange pas forcément à la cantine, mais du coup qu'avec des légumes produits sur place et avec des méthodes bio, enfin oui voilà, bien sûr, parce que c'est aussi cultivé en bio. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette démarche-là intéressante, et puis mis à part, enfin, en plus de ça, donc du coup tout le monde est bénévole, et y compris les artistes en fait, enfin personne n'est payé, à part les 3-4 permanents de l'asso qui bossent à l'année sur l'organisation du festival, sinon personne n'est payé là-dessus, et même pas les artistes, du coup, moi j'avais trouvé ça intéressant, après on peut en penser ce qu'on veut, il y aura peut-être des artistes qui vont bondir en disant nous on veut vivre de notre métier, etc. Mais n'empêche que ça fout une ambiance que j'avais jamais vue ailleurs. Enfin, je crois qu'il y a 250 artistes ou quelque chose comme ça qui viennent à la fois pour jouer, et en général tous les groupes qui jouent le soir dans des formats un peu concerts, c'est des gens qui animent aussi des ateliers la journée. Donc en fait c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la journée on peut apprendre à danser pour mettre en pratique le soir. En gros c'est ça quoi. Et du coup tous ces gens-là ils viennent bénévolement, et ils viennent parce que ça leur fait plaisir, et du coup ça fout une pêche là-dedans qui fait assez plaisir à voir. Voilà.
Ça fait pas mal d'années aussi qu'il existe ce festival.
Ouais, c'est le 13e là. C'était le 13e. Ouais. Et dont 8 ans à San Pedro. En fait, ça a pris beaucoup d'ampleur depuis que c'est à San Pedro. Avant, c'était beaucoup plus petit. Et voilà. Donc, là, en fait, ça me fait penser que j'ai pas annoncé le morceau qu'on a écouté avant. Enfin, les deux. Bon, le premier, vous avez peut-être reconnu. Ça s'appelle Universal Mind et c'est chanté par les Doors. Et le enfin, ça n'a rien à voir, hein. Mais le deuxième, c'est chanté par un groupe qui s'appelle Monte Lunai. Donc, du coup, c'est un groupe portugais qui était à Anonsage cette année. Et voilà. Et c'est pas très très portugais comme musique. Le violoniste de ce groupe est d'origine ukrainienne. Et là, c'était un morceau qui s'appelle Kolomeika, et qui est une danse traditionnelle des Carpates d'Ukraine. Et voilà. Et bah, si vous voulez bien, même si vous voulez pas, tant pis pour vous, on va s'écouter un autre morceau d'un groupe qu'on a découvert cette année, un super groupe, voilà, qu'on a découvert à Andansage. C'était énorme sur scène. Et ça s'appelle Uchukaliu. J'ai même envie d'en passer deux. Je sais pas s'il y aura le temps. Voilà, Uchukaliu, je suis un super groupe portugais. Je vous laisse écouter.
Continuez
ça.
Le voyage. Nous sommes toujours sur Mutin Mutine, et puis parce que c'est presque toujours les vacances quand même, on va pas perdre nos bonnes habitudes. Alors on s'est fait une petite revue de presse juste d'un jour de l'été, donc c'est le vendredi 10 août 2007, un journal vraiment magnifique quand même, enfin, où on se demande dans quel monde on vit, où on se dit que vraiment il y a des choses qui se passe, et puis en fin de compte tout le monde s'en fout, c'est des articles qui se collent de page en page, et puis voilà, moi je me suis dit que ça pouvait être bien d'en lire un peu, parce qu'on, enfin d'en lire et du coup de donner à entendre, parce que peut-être que de lire les choses on peut lire un peu en diagonale, mais il y a des fois des mises en page qui font un peu peur.
Donc, alors, en ce vendredi 10 août 2007, il fait beau à Brest. Et donc, ça titre « Dans les taux des organismes de recouvrement ».
C'est dans Ouest-France.
Est-ce qu'on a le droit de dire ? Oui.
Ah, bah si.
Bah si, en fait,
ah bah si, presse. Quand même.
Des crédits faciles, trop faciles à obtenir. L'impossibilité de rembourser. Et puis, le harcèlement de sociétés spécialisées qui veulent récupérer l'argent. L'enfer. Donc là, nous avons tout un article, en fait, qui parle des différentes façons de s'endetter. Toi, tu peux faire en gras, par exemple.
Quand je vois une voiture au bout de la rue, je me demande si c'est pas l'huissier. François a 38 000 euros de dette. J'ai 2 000 euros de revenus mensuels, 1 300 de charges fixes. La Banque de France a établi un plan de remboursement de 500 euros par mois. Impossible d'y arriver. J'ai tenté un recours au tribunal. Repoussé.
Tout commence en 2004. Ce commercial enthousiaste déniche un meilleur emploi. Il démissionne et entre chez un artisan souhaitant développer son activité. François y croit. Ramène des commandes à tour de bras. Trop.
La fabrication ne suivait pas. Le patron m'a licencié. Nous venions de déménager, d'acheter une deuxième voiture, et nous nous retrouvions avec une paye. Il y a eu un mois où nous n'avions plus de sous le 15. Et on a puisé dans un crédit revolving qui se recharge tout seul. Waouh, c'est magique. Après, c'était l'enchaînement.
Les premiers impayés, l'interdit bancaire et les appels des sociétés de recouvrement.
Cela a commencé gentiment. Le premier interlocuteur m'a dit de faire un geste, de donner 30 ou 40 euros. J'ai essayé, sans pouvoir tenir. C'est devenu l'enfer. Ils appelaient à tout bout de champ. Un jour, quelqu'un a même appelé ma belle-sœur. Dit qu'il fallait que je paye pour ne pas me retrouver au tribunal. Ma femme était enceinte, j'ai fait une dépression, rien ne les a arrêtés. L'un d'eux a même dit « Ce n'est pas la peine de nous faire le coup du suicide, on nous l'a déjà fait. »
Trois petits points. Loin d'être un cas d'espèce, de tels témoignages nous arrivent régulièrement, raconte Stéphane Brio, responsable de la jeune association Crésus Pays de la Loire, à l'écoute des surendettés.
Les méthodes sont parfois très rudes. Des agents se font passer pour des huissiers ou des policiers, menacent les personnes de prison si elles ne remboursent pas.
Le code pénal sanctionne d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende ce type de confusion. Encore faut-il pouvoir la prouver. L'exercice du recouvrement a été défini par la loi et un accord de bonne pratique a été signé entre des organisations de défense de consommateurs et l'Association française des sociétés financières.
Mais les limites sont trop floues,
estime Stéphane Brio, partisan d'une clarification réglementaire. Maurice vient de sortir d'une période noire.
Le recouvreur m'appelait tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Il me disait que j'allais me retrouver à la rue. Il a contacté une voisine. Il lui a dit que je devais rappeler pour une affaire très grave. Une autre fois, il a eu le service du personnel de mon entreprise. Le directeur n'était pas là. Une personne du service a pris l'appel. Elle l'a envoyé balader.
Maurice a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et le téléphone s'est calmé. Les comptes virant au rouge et l'illusion des crédits revolving pour s'en tirer, cette femme et son mari ont eux aussi connu l'enchaînement.
On a voulu acheter un appartement sans avoir les reins assez solides. C'était plus qu'un ric-rac. Et d'un seul coup, le frigo et la machine à laver sont tombés en panne. Au même moment, il fallait racheter une voiture.
Lui est à la retraite, elle est atteinte d'une grave maladie de cœur.
Les appels, c'est tout le temps. J'ai la trouille. Un jour, je me suis senti mal. La personne au bout du fil m'a répondu « Bientôt, vous serez encore plus mal. »
Une belle enquête d'investigation, quand même incroyable. Hein.
Ouais.
Et donc après, nous avons une personne qui souhaite rester anonyme, en fait, qui, dans cet article, raconte ce que c'est le travail, enfin ce que c'est de demander aux gens de payer quand ils sont endettés. Donc alors ça commence. J'ai une maîtrise de droit privé, j'ai décroché mon premier job au service recouvrement de créances d'une société de crédit à la sortie de la fac. Ça c'est de la réussite quand même. Depuis j'ai changé et je suis dans une société spécialisée dans le recouvrement. J'ai un fixe de 1700 euros plus 300 à 400 euros en moyenne d'intéressement. C'est un peu indécent de parler comme ça. Nous avons chacun 400 à 500 dossiers à traiter par an avec comme objectif de récupérer un maximum d'argent et si possible le remboursement intégral de la dette. Il s'agit de convaincre les gens de payer avant la mise en œuvre des procédures lourdes. Tribunal est saisi. Nous intervenons par téléphone. Nous n'avons pas 50 solutions. La seule et unique, c'est la pression psychologique. Les appels doivent être courts. Il faut parler sans se faire interrompre pour avoir l'ascendant sur les gens. On leur dit qu'ils doivent rembourser au risque d'avoir des ennuis bien pires. La venue d'un huissier est tutti quanti. Ils répondent qu'ils n'ont pas d'argent. On leur dit qu'ils doivent se débrouiller en contractant un nouvel emprunt, en s'adressant à leur entourage, à la famille ou aux amis. On laisse mariner 2 ou 3 jours et on recommence. Le débiteur doit avoir le sentiment qu'on ne le lâchera pas. On peut augmenter la pression en appelant un voisin, l'employeur, le boucher ou le boulanger lorsqu'on peut. On ne dit pas qui on est, simplement qu'on a besoin de le contacter d'urgence. On peut en rajouter en se faisant passer pour clerc de notaire. Il se sent cerné, craint que son environnement ne découvre le poteau rose.
Hormis cette tactique, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. On respecte la confidentialité. Enfin, dans notre société, on respecte. Est-on sensible à la situation des gens ? Forcément. Une convention a été signée entre les sociétés de recouvrement et les organisations de consommateurs pour que le recouvrement se fasse de manière respectueuse. Cela reste assez théorique. La limite n'est pas vraiment définie. Si on hésite un peu trop, on arrête ce boulot. Notre mission est assez simple. Quelqu'un a fait un crédit et nous devons récupérer l'argent. Nous avons affaire à des gens de bonne foi et d'autres connaissent très bien le système. Ils disent « Vous pouvez toujours y aller, je me suis organisé pour être insolvable. » Ai-je honte de faire ce métier ? Disons que je me suis parfois posé des questions, mais non, c'est un boulot comme un autre.
Enfin bon, s'il n'avait pas honte, il ne serait pas anonyme non plus, quoi.
Ouais, peut-être.
Donc voilà, la banalité du quotidien. Le recouvrement, le surendettement, la machine à laver, l'appartement.
Le frigo.
Une voiture. Donc, pas mal de choses qui changent entre le premier sujet dont on parlait, des squats. Après, chacun son mode de vie. Mais je trouve ça quand même assez grave que ce soit aussi banalisé, que ça passe comme ça dans un journal, comme une situation tout à fait courante et ordinaire.
Ouais, et puis ces gens-là sont des gens ordinaires aussi, les gens qui mettent la pression psychologique sur les gens. Enfin, finalement, voilà quoi, c'est un boulot comme un autre, quoi. Enfin, c'est le message qui est...
Mais peut-être qu'il a quand même fait trop d'études pour faire un métier comme ça.
Peut-être.
Je sais pas s'il y a des formations maintenant pour harceler les gens au téléphone.
Je sais pas. Il y a bien des formations de vigile à l'école.
Et voilà, toute la folie donc des crédits, de l'argent, toujours plus d'argent, travailler plus pour travailler plus. Et donc, comme c'était quand même une fameuse journée, donc il y avait aussi les obsèques de Monseigneur Lustiger ce jour-là. et voilà, on tourne la page et c'est encore complètement fou. Donc le titre, elle sera jugée pour avoir volé sa mère. La mère a porté plainte contre l'adolescente qui lui avait subtilisé chéquier et carte bleue. La jeune fille a été mise en examen. Donc là, on va pas tout lire parce que c'est quand même un peu long, mais bon. Donc Westrand se dit que quand même, l'acte ne méritait sans doute sanction, mais jamais India n'aurait pu imaginer qu'elle puisse aller jusque-là. Cet adolescent de 14 ans risque aujourd'hui 18 mois à 3 ans de prison pour avoir subtilisé puis utilisé le chéquier et la carte bancaire de sa mère. Présentée hier devant le tribunal pour enfants de Thionville, elle a été mise en examen pour vol et falsification de chèques, et ce à la suite d'une plainte déposée par sa propre mère. Donc voilà, après ça continue...
C'est balèze, hein.
Ouais.
Enfin, on voit les ravages quand même de la consommation, enfin de la publicité, etc., qui pousse les gens, voilà quoi, à faire n'importe quoi pour aller dévaliser les magasins et passer à la caisse.
Ouais, mais c'est quand même fou. Ça pose aussi la question de la mère qui porte plainte contre sa fille.
Et puis
c'est
voilà,
clair
aussi,
que là, il y a
le
côté où bam, elles sont allées faire du shopping, et là, ils donnent des chiffres, c'est assez impressionnant, quoi. Ça fait entre 1500 et 2500 euros. Donc c'est sûr que comme ils disent que pour une employée comme femme de ménage, c'est élevant seule ses enfants.
C'est sûr, ouais.
C'est pas simple. Mais de là à se dire que tu vas porter plainte contre tes enfants, ça fait un peu penser à 1984 où les enfants dénoncent leurs parents pour les crimes par la pensée. Et là, c'est quand même incroyable.
Ouais. Mais donc, on peut se dire aussi que pour en arriver là, elles ont dû en arriver à un point de non-communication sûrement entre la mère et la fille.
Oh, c'est beau ce que tu dis, Yoram. Parce que quand même, il y a le...
Je pense qu'il y a des problèmes quand même en amont. Bref.
Ouais, mais quand même. La ouais. Minette, elle dit comme ça, non. Dauphin du bâtonnier de Thionville confirme de son côté que d'autres voies alternatives aux poursuites auraient pu être envisagées par le parquet comme un rappel à la loi ou une médiation. Enfin, il y a d'autres choses que la prison quand même avant,
oui.
Quoi.
Et puis d'autres voies que le dépôt de plainte aurait pu être envisagé par sa mère, quoi. Enfin, je pense aussi. Mais c'est que je pense que il y a un problème
dans
la communication intergénérationnelle.
Pour continuer peut-être un peu dans la... Après, on arrête de... Parce que les vacances, c'est ça, on était quand même vachement bien. Mais c'était quand même une belle journée ce vendredi 10 août. Donc ensuite, il y avait OGM, obsèques de l'agriculteur suicidé. Donc voilà, maintenant les manifestants anti-OGM poussent les agriculteurs au suicide. C'est pas exactement dit comme ça, mais ça, c'est pas loin. Donc près de 600 personnes ont assisté hier après-midi à une messe en mémoire de l'agriculteur du Lot qui s'était suicidé dimanche avant un rassemblement anti-OGM près de son exploitation. L'éleveur, âgé de 46 ans, qui exploitait la ferme avec son frère, cultivait une parcelle de maïs OGM sur son exploitation de Girac en toute légalité, mais avait gardé l'information confidentielle. Après un dépôt de gerbes dans le champ où l'agriculteur s'était pendu, le premier vice-président de la FNSEA, Xavier Belin, a interpellé les pouvoirs publics. « Nous devons être protégés de toute agression, de quelque nature qu'elle soit, matérielle ou psychologique. » Eh ben là, en tout cas, on pourrait demander à Xavier Belin de s'intéresser aux gens du surendettement, sûrement. C'est incroyable.
Oui, bah, la grosse récup, voilà, comment se détourner
Et puis c'est vraiment réduire les choses. Enfin, cet homme-là, il s'est pas suicidé à cause des OGM et des anti-OGM.
Il s'est peut-être suicidé à cause des OGM, mais certainement pas à cause des OGM. Enfin,
des
anti-OGM. Enfin, ouais, en Inde, il y a des centaines de suicides par an d'agriculteurs qui sont passés aux OGM, c'est-à-dire qui sont passés sous la coupe des grandes industries et des grandes sociétés semencières. Et c'est pas à cause des gugus qui vont faucher les champs parce que enfin je pense pas qu'en Inde ils en soient là et c'est pour des raisons complètement différentes, enfin notamment des raisons qui rappellent un peu l'histoire du surendettement là.
Ah oui, parce qu'on en parle pas des crédits qu'on leur fait à tous ces agriculteurs. Voilà. On en a une des belles banques là qui sont prêtes à accepter les prêts sous n'importe quelle condition.
Ouais.
Surtout quand ça concerne des grandes serres de tomates ou tout ça.
Voilà. Et puis avec les OGM va toute la logique productiviste qui consiste à s'équiper, à acheter les engrais, les saloperies qu'il faut.
Et puis ces semences qu'on peut pas réutiliser.
Et voilà. Et donc un peu, on est pieds et poings liés, livrés totalement à la compagnie qui nous a fourgué les semences, quoi. Enfin voilà. Donc en gros, je pense que les raisons du suicide. Peut-être plutôt aller les chercher de ce côté-là, mais c'était peut-être beaucoup demandé aux journalistes de West France. C'était trop beau de faire un... Et puis c'était peut-être pas... C'est même pas que lui, d'ailleurs, c'est Monsieur Belin, là aussi,
oui, puis c'est
qui a sauté sur l'occasion pour...
Aussi, les dépêches AFP qui sont toutes tournées de la même façon pour qu'on aurait très bien pu trouver ça dans n'importe quel autre journal,
ouais,
je pense.
Certainement. Et puis voilà, moi je trouve ça beau quand même, cet agriculteur OGM qui se suicide dans son champ de maïs... C'est un signe de l'époque. Bon, ouais. On va peut-être s'écouter un petit morceau de musique
avant de finir notre revue.
Ouais,
presse,
avant de finir notre revue de presse. Et puis après,
seconde...
on parlera un peu de ce qui se passe maintenant aussi.
Ouais, c'est ça.
Sur Brest. Allez.
Du coup, on écoute quoi?
Bah moi, je voulais mettre un deuxième morceau d'Uchu Kalyush parce que je le trouve vraiment bien et vraiment représentatif de ce groupe. Et puis après, je vous embête plus avec ce groupe-là pendant un petit moment. Bah si, voilà, bah non, si on aura le temps. Allez, c'est parti.
Por você nada, estás do lado. Quanto mais te rego, mais pendas para o lado. Mais pendas para o lado, mais a rosa cheira. Estás
a falsear, meu amor, agora, agora. Dois passos para diante, meu amor, e vai-te embora. Toda moça que é bonita, na maior força de amar. Juro, amor, que eu também juro, não me andes a falsear. Não me andes a falsear, meu amor, agora, agora. Dois passos para diante, meu amor, e vai-te embora. Oh, erva cidreira, estás no alpendre. Quanto mais te rego, mais pendes para a frente. Mais pendes para a frente, mais a rosa cheira. Estás no alpendre, erva cidreira. Oh, erva cidreira, estás no telhado. Quanto mais te rego, mais pendes para o lado. Mais pendes para o lado, mais a rosa cheira. Estás no telhado, erva cidreira.
C'est un deuxième morceau du groupe Uchu Kaliush, un groupe portugais. Ce morceau-là s'appelait Erva Cidreira. Et le premier morceau qu'on a passé tout à l'heure, il s'appelait Nova Babylonia. Et c'est sur un album qui s'appelle Revolta dos Badalush. Voilà, si je prononce bien, c'est à peu près comme ça. Voilà. On voulait finir rapidement parce que voilà, c'est bientôt la fin, on va bientôt se quitter.
Sur l'actualité, toujours pathétique, mon Dieu.
Et là où l'actualité du 10 août rejoint celle d'aujourd'hui, voilà. Et c'est toujours un éternel recommencement avec toujours les mêmes problèmes.
Ouais, de pire en pire.
Ouais, de pire en pire.
Alors, allez. Le 10 août, ça titrait « L'enfant chute en voulant échapper à la police ». Le garçon de 12 ans et son père, un sans-papier, allaient être contrôlés dans leur immeuble à Amiens. Tous deux ont enjambé le balcon des voisins. Bam. Donc alors voilà, alors cet adolescent, il s'est retrouvé dans le coma, traumatisme crânien, enfin bref. Et donc le journaliste nous explique qu'il y a quelques jours, la mère et le fils auraient pointé au commissariat comme l'exigeaient les autorités. Le père, lui, s'est abstenu. Donc on se demande un peu dans quel monde on vit quand même, enfin où les gens vont pointer comme ça, ça rappelle des drôles de souvenirs quand même. Et tout est normal, c'est dit comme ça, entre deux lignes, et puis on lit ça en transversal, et puis il n'y a aucun problème.
Ouais, c'est même dit à la décharge des gens, quoi, en fait. Enfin, pour le dire, voilà, c'était des innocents, des gentils. Ben,
des gens qui font des efforts et d'autres voilà. Qui n'essayent vraiment pas du tout de s'insérer.
C'est ça,
quoi.
Voilà. Des gens qui allaient pointer comme on leur demande.
Qui
et
se rebiffent.
On se croirait sous Vichy, quoi.
Et donc voilà, qu'est-ce qu'on risque ? Eh ben, c'est de tomber d'un balcon si on fait des erreurs comme ça. Et donc la Ligue de droit des droits de l'homme de conclure que la politique menée par le gouvernement ne cesse de provoquer des drames humains sans pour autant résoudre ce contre quoi elle prétend lutter. Et donc tout ceci fait écho à l'actualité d'aujourd'hui.
Et voilà, après j'en sais pas beaucoup plus que ça, mais j'ai entendu tout à l'heure à la radio avant de venir que, enfin à la radio du coup sur une autre, enfin voilà, sur une moins bien, que Bah aujourd'hui, je crois que enfin ça s'est passé ce matin ou hier, enfin c'est tout frais. Bah il y a un gars, alors je sais pas où c'est en France, mais vous aurez l'info. Mais en gros, c'est à peu près la même info. C'est-à-dire que il y avait des flics qui faisaient un contrôle dans la rue et il était en bas de chez sa sœur. Il est monté au quatrième étage se réfugier chez sa sœur. Les flics l'ont poursuivi dans l'appart et il a enjambé la fenêtre. Il était pendu, accroché avec ses mains à la fenêtre. Et les flics l'ont fait lâcher prise. Enfin, voilà, quoi, en essayant de l'attraper. Du coup, il est tombé du quatrième étage. Je crois pas qu'il soit mort. Mais bon, voilà. Enfin, encore un drame
ordinaire du quotidien.
Voilà. Et puis, ça donne une idée aussi de l'enjeu. Enfin, de ce que ça représente de se faire arrêter pour des gens comme ça qui ont quitté leur pays, la démarche que c'est de quitter son pays, déjà c'est un truc assez énorme, c'est pas exprès pour venir emmerder les petits Français et leur prendre leur pain que ces gens-là quittent leur pays, il y a des raisons beaucoup plus profondes. Et du coup l'idée de se faire renvoyer chez eux et de se faire renvoyer dans ce qu'ils ont fui, on imagine, enfin on voit que les gens sont prêts à sauter par la fenêtre plutôt que de se faire arrêter. Puis ça donne aussi une idée des conditions de traitement après l'arrestation, s'ils préfèrent sauter que de vivre ça, ouais. Ça donne une petite idée. Et du coup, ça permet d'enchaîner avec un truc qui est aussi d'actualité.
Qui se passe samedi prochain.
Voilà, et puis qui donne un peu de l'espoir parce que on se dit il y a quand même des gens qui se bougent pour lutter contre cette machine à expulser, quoi, à déporter, on pourrait dire, quoi. C'est en fait à Saint-Jacques-de-la-Lande, ça doit être à une dizaine de kilomètres de Rennes, je crois. C'est un centre de rétention, c'est un nouveau centre de rétention qu'ils construisent. Là, il y en a quelques dizaines en France là qui construisent dans le but d'arriver à atteindre les 25 000 expulsions cette année. Voilà. Pour à titre indicatif, en 2002, la première année où Sarkozy était ministre de l'Intérieur, on était à 10 000 expulsions de personnes étrangères par an, ce qui est déjà assez énorme quand on imagine ce que ça fait par jour et les moyens qui sont déployés pour arriver à ça. Là, 25 000, enfin, c'est pas les trains bestiaux, mais c'est pas loin, quoi. En fait,
c'est par rapport au centre de rétention qui a été construit à Rennes.
Voilà, c'est ça, à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Et qui est pas encore construit, enfin, qui est en train de se construire, qui est pas encore
qui est pas fini.
En activité, voilà. Et qui a coûté 10 millions d'euros à la collectivité, quand même. Et voilà, qui va pouvoir accueillir 90 personnes. Et du coup, on appelle ça centre de rétention, mais ça pourrait s'appeler prison, quoi. Enfin, c'est pas un centre où ils peuvent séjourner gentiment en attendant de voyager en direction de leur pays d'origine. Enfin, c'est un centre où ils sont jetés, voilà, quoi. Enfin, où ils sont parqués vraiment comme des bestiaux et ils sont pas là pour être. Ils sont traités vraiment comme des malfrats, quoi. Enfin, comme des gens qu'on jette en prison, quoi. Alors qu'en général, la seule chose qu'on peut reprocher, que l'État reproche à ces gens-là, c'est de ne pas avoir des papiers en règle, voilà, quoi. De ne pas avoir le bon tampon sur son passeport. Voilà.
Donc le rendez-vous,
c'est... En fait, c'est samedi 15 septembre, donc c'est samedi prochain. Il y a un rendez-vous qui est donné à 15h à la place de la République, donc ça se passe à Rennes. Ensuite, vers 16h, il y aura un départ collectif en bus vers Saint-Jacques-de-la-Lande. Et en fait, le but de l'action, c'est de monter un campement qui devrait durer le plus possible. Mais enfin, déjà passer une nuit ou deux là-bas, je crois que c'est déjà un objectif. C'est à peu près l'objectif des gens qui organisent cette action. Donc, le but, c'est de camper devant le centre de rétention Saint-Jacques-de-la-Lande. Voilà, donc j'ai des infos qu'on pourra peut-être mettre sur le site, mais que je peux donner vite fait, puisque apparemment Gwen n'arrive pas et qu'on a un petit peu de temps. En fait, pour se rendre à Saint-Jacques, il faut suivre la ligne de bus numéro 57. Voilà, s'il y a des gens qui loupent le rendez-vous à Rennes à 15h.
Ça, c'est beau comme information.
Bah, pour que les gens y aillent.
C'est important.
Oui, c'est important.
Et du coup, il y a aussi, par exemple, pour les gens qui veulent, qui peuvent pas forcément aller à Rennes, là, il y a quand même des groupes aussi et des collectifs qui agissent sur Brest. On pourrait parler, par exemple, du casse-papier qui cherche du monde aussi. Et de BESF, c'est RESF, j'ai plus.
RUSF aussi.
RUSF aussi.
RUSF, c'est des étudiants. Et voilà. Mais le casse-papier, enfin, on connaît un peu plus. Et puis, du coup, ouais. Et puis, reprendront des activités.
Bah là, ça recommence, ouais.
Tout bientôt. On peut mettre sur notre site un moyen pour se renseigner sur. Sur les activités du casse-papier, un contact. Mais sinon, si vous cherchez bien, si vous fouillez bien les archives de notre site, on avait déjà parlé du casse-papier au mois de mai ou juin. C'était à l'époque du festival 32 ans, où le casse-papier participait à l'organisation d'une journée sur les migrations. Et du coup, on avait déjà donné un contact. Donc pour joindre le casse-papier, il n'y a pas d'excuse. Faut se bouger, voilà.
Et ben, comment on peut parler de... Où on s'écoute une petite musique, du coup.
Ouais, bah si du coup, moi je me disais que voilà, hein, on va pas se gêner, on va se faire plaisir.
Allez, hop, en route.
Allez, en route. C'était un morceau du groupe Dobranoch, qui est un groupe russe qu'on a connu aussi sur le festival Indansach, donc au Portugal, dont on parlait tout à l'heure, un festival de danstrad. Et c'est un super groupe, voilà. Sur scène, c'est de la balle. Donc on est de retour dans le studio, juste pour conclure, et puis on va parler un peu de ce qui va se passer la semaine prochaine, mais avant...
Ouais, pour annoncer un peu ce qu'on pourrait faire ce week-end.
Ouais, voilà, c'est ça, avant, il y a un super truc ce week-end, tout le week-end.
Ouais, ça se passe rue Saint-Malo, donc c'est la fin des beaux dimanches aussi, on peut dire ça, du coup, ça conclut un peu toute la saison des beaux dimanches qui se déroulait tous les dimanches après-midi rue Saint-Malo, et donc là, dans les journées du patrimoine depuis quelques années... La rue Saint-Malo organise Dansons la Capucine. Et ça a lieu samedi et dimanche. Donc samedi, c'est de 17h à minuit, avec pas mal de concerts. que du coup on connaît pas trop. Il y a juste quelque chose, enfin, à voir sûrement. Ça, c'est un spectacle qui s'appelle Résistance. C'est de la poésie engagée sur fond vidéo et de gratte électrique. Et il se dénomme Pal Folk Moderne. Donc je pense que ça peut être un sacré truc à voir. Donc ça, c'est samedi soir. Et donc, eh ben, le dimanche, c'est pareil. Il y a des concerts aussi, tout de l'après-midi dans la rue. Et c'est sur les horaires des beaux dimanches, de 15h à 20h30. Où là, pour l'occasion, il y aura Machin Machine, Moonshine Orchestra, les danseurs des bougeurs d'eau. Il y a Canal Tizef aussi qui vient faire des projections. Et donc, nous, on y était la semaine dernière, enfin non, dimanche dernier, juste, à la rue Saint-Malo. Et
il s'est passé plein de choses intéressantes, ouais. En même temps, d'ailleurs.
Toi, t'étais sur quoi ?
Eh ben, moi, j'étais sur rien du tout, parce que j'étais pris par des engagements bénévoles auprès de Vivre la Rue. Du coup, j'étais un peu plus du côté de l'organisation. Je vais pas dire ce que je faisais, parce que sinon, tout le monde va se foutre de ma gueule à l'antenne. Donc,
donc il y avait des bons documentaires qui passaient, et notamment un, en fait. Alors, c'était... Ouais, elles ont eu pas mal de pubs, quand même. C'est les Baba Yagas. C'est donc des nanas... qu'on peut dire quand même sacrément bien féministe, qui monte sur Montreuil, à côté de Paris, une maison autogérée pour femmes retraitées. Donc c'est tout un système alternatif à la maison de retraite pour des nanas qui ont entre 60 et 80 balais, et voilà, qui n'ont pas envie d'aller vivre et de dépenser, je sais pas, c'est presque 10 000 balles un mois en maison de retraite.
Je crois que ça doit tourner autour de ça, c'est énorme. Ouais, c'est pas loin, ouais.
Et donc, elles ont monté un projet il y a quelques années. Enfin, c'est des nanas qui ont été pas mal dans les milieux militants, associatifs et tout ça, et qui se sont dit, ben voilà, faut qu'on réfléchisse quand même à comment... À un moment, nous, on réfléchit à comment mieux vivre, et puis elles réfléchissent à comment bien vieillir et mieux mourir aussi. Et ça, c'est elles qui le disent. Et donc, voilà, donc on les a rencontrées au Beau Dimanche, et il y a un projet comme ça... de maisons qui se mettraient en place dans quelques années sur Brest. Et donc, mercredi prochain, on devrait rencontrer quelques protagonistes de l'histoire pour notre émission de 19h à 20h.
Voilà. Et puis avec du son de dimanche dernier aussi, peut-être ?
Oui.
Ouais.
Oui, oui. Bah,
ça
oui,
va
y avait
intéressant de confronter tout ça.
Ouais. Entre une version assez féministe radicale quand même. Mais après, c'est d'autres générations aussi. Quand t'as 80 balais, on parle plus des mêmes choses. Donc voilà, donc ce sera le sujet de notre prochaine émission. Parce que être militant, ça va jusqu'à la fin de la vie, quoi.
Ben oui, c'est ça.
Pourquoi c'est ça qui est incroyable.
Pourquoi il y aurait une limite d'âge ? Voilà, et ben donc à la semaine prochaine.
Ouais, et peut-être on pourrait finir, tant qu'à parler féministe, là, sur une petite citation pour rebondir... sur les différents articles qu'on a lus, une petite citation de Simone de Beauvoir qui dit que ce qu'il y a de scandaleux avec le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Et ben voilà.
Allez.
Sur ce,
salut.
Bonne semaine.
Une mutinerie, c'est une révolte. Une rébellion contre l'autorité.
Hein ?
Un mutin, c'est une personne en révolte contre l'autorité établie.
C'est quoi ça?
Debout là-dedans, bordel! Allez, debout là-dedans!
C'est quoi ce bordel?
Allez, debout là-dedans! Motif des troupes, tactique, on lève le camp dealer! Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealer! Qu'on veut pas de militaires, que des militants! Allez, debout là-dedans! Motif des troupes, tactique, on lève le camp dealer! Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealer! Qu'on veut pas de militaires, que des militants! Les plus sceptiques, maraboutelés, les plus réfractaires, contaminés. Fais le forcing, sors la tiraille, sort les munitions, l'artillerie braquée. Hey, campe sur des positions, bouge-les comme un LK, bouge les défenses, réveille-les comme Zizou, réveille le stade de France. Ce soir, on vous met, ce soir, on vous met la fière. Ce soir, on vous met dans la tête une idée révolutionnaire. Peace United à coup de ghetto blaster. Message de paix, de Buenos Aires à Ramallah, tous solidaires, de Dakar à Jakarta, faire péter les watts comme un acte humanitaire. Pour nos voisins, nos cousins, nos petits frères, pour les nôtres, pour nos quartiers populaires, réveille-les et dis-leur c'est salutaire. Debout là-dedans, motive tes troupes, tac, clic, on lève le camp, dealer. Qu'on veut pas de combat.
mais une affaire.
Tout le monde debout.
Prends ce nouveau son comme une invitation à la révolution. Comme dirait tonton, ils nous prennent pour des cons. Ils nous endorment, nous embrigadent, nous prennent pour leurs pantins. Ah c'est bon, assez soupé de leur baratin. Leur guerre de civilisation, leur fagnon, leur salade. Et choisis-t-on qu'en camarade Washington ou Islamabad. Ça me rend malade et on peut pas y échapper.
Partout,
à la radio, dans les journaux, à la télé.
Mais c'est quoi ce monde bordel?
En tout cas, je suis pas de la partie. Trop jeune pour mourir, trop vieux pour ces conneries. Tous ces politicards, ces soldats, ces jobards. S'ils viennent nous chercher, on saura les recevoir.
Allez, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, tactique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealer. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Allez, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, tactique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealer. Qu'on veut pas de militaires, que des militants.
Y'a urgence. On se rassemble, on se mobilise, on s'organise, réalise. Qui serait temps qu'on dramatise en bas de chez Watt? Y'en a qui crèvent la dalle, ça se part en live. Et les chances sont inégales, y'a plus de repères. Les minots sont du père, le climat est tendu. On se croirait en état de guerre. Le message, c'est pour toi, toi, toi. Motive ta clique, ton clan, ta familia. Fais trembler les murs, vibrer les persiennes. Ça brams, faya, de l'île à Marseille. Monte la sauce, les passeux, faut que tu les traumatises. Balance, fais péter leurs oreilles, tu les brutalises. Comme des sales gosses, comme des sales gamins. Réveille-les, réveille tes voisins. Dis-leur c'est le map, dis-leur que ça tape. Dis-leur à ta façon, voilà c'est de la patate.
Hey, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp. Dis-leur qu'on veut pas de commentaires, que des combattants. Dis-leur qu'on veut pas de militaires.